Et notre invité ce matin dans le 8:30, le colonel Philippe de Tannouarn. Bonjour.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous.
Bonjour, vous êtes chef de corps du 4e régiment de chasseurs à Gap. La semaine dernière, dans les Hautes-Alpes, s'est déroulé l'exercice Durance, exercice important, 500 soldats, une soixantaine de véhicules, 3 hélicoptères du 3e régiment d'hélicoptères de combat. Au bout de cette semaine d'exercice Durance, quel bilan vous en tirez?
Alors, le bilan, il est un petit peu difficile à tirer dès maintenant, parce qu'on va laisser reposer un petit peu avec les différents contrôleurs qui étaient présents sur l'exercice pour essayer de tirer les enseignements, voir les savoir-faire qui sont bien maîtrisés, ceux qui le sont un peu moins, et puis pouvoir poursuivre l'entraînement en ayant accès sur les lacunes éventuelles des différents équipages du régiment. Mais en tout cas, c'est déjà une réussite, me semble-t-il, parce que c'était un exercice qui est rarement réalisé, donc aussi long dans notre région, et puis qui a permis de travailler beaucoup de savoir-faire, donc les savoir-faire de blindés en montagne, les savoir-faire de montagne tout court, les savoir-faire de haute intensité, c'est-à-dire face à un ennemi qui est quasiment aussi fort que l'ami, et donc à égalité, si je puis dire, puisque les hélicoptères, par exemple, participaient parfois en tant qu'ami, parfois en tant qu'ennemi, et donc on a également dans les savoir-faire de haute intensité la partie attaque chimique sur Ancel. Donc on a eu toute une phase en ambiance chimique. Voilà, donc on a travaillé beaucoup beaucoup de savoir-faire, et puis pour finir, donc vendredi on a travaillé des savoir-faire avec la police, avec la préfecture, avec le SDIS et avec le SAMU. Et donc c'était encore d'autres sur cette partie interopérabilité avec les différents services, c'était exactement également très intéressant.
On reviendra sur cet exercice qui a été mené du côté de Gap, c'était donc vendredi. Alors, vous le disiez, l'objectif c'était de s'entraîner au combat blindé en montagne. C'était aussi de développer des savoir-faire spécifiques autour des armes chimiques. On précise quand même qu'au niveau international, il y a une convention, c'est la convention sur l'interdiction des armes chimiques. Elle a été signée par 143 États à Paris en 1993. Colonel, ça ressemble à quoi la guerre chimique moderne ?
Alors là, on était vraiment dans le type d'attaque, si je peux dire, qu'on retrouve dans la haute intensité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des tirs d'artillerie avec des obus fusants qui vont diffuser en fait un liquide chimique qui après qui est persistant ou non persistant. Hein, ça peut dépendre. Et donc en gros, là dans l'exercice, on avait eu des tirs chimiques de l'ennemi sur le village du château d'Antel. Et finalement, donc tous les éléments qui étaient sur le château d'Antel étaient considérés comme contaminés. Et donc, une fois que la menace ennemie a été neutralisée, donc on a réalisé la décontamination aussi bien des véhicules que du personnel, que du petit matériel, à l'aide du 2e régiment de dragons NBC de Fontevraud.
Et donc, le dernier jour, exercice en zone urbaine, cette fois avec une prise d'otage du côté de Gap, ce qui a surpris d'ailleurs beaucoup de Gapensais, même si ça avait été dit dans les différents médias. Aujourd'hui, c'est ça le danger le plus important en France, dans la sécurité nationale, c'est faire face à une prise d'otage. On pense aux attentats de 2015, forcément, c'est ce qui arrive forcément en tête.
Oui, alors, en fait, c'est très difficile de savoir quel sera l'événement important sur lequel on sera engagé. Mais l'important, c'est de faire face un peu à tout type d'événement. Et puis, on sait que l'armée de terre est quand même très employée sur le territoire national dans le cadre de l'opération Sentinelle. Donc, finalement, ce travail entre l'armée de terre, entre la police, les pompiers, en fait, il est finalement assez habituel. Mais là, la petite différence, c'est qu'on n'était pas dans le cadre de l'opération Sentinelle, donc on n'avait pas forcément les moyens de radio pour communiquer avec la police. Et donc, la coordination, elle se faisait au niveau de la préfecture. C'est ça la petite différence par rapport au quotidien de l'opération Sentinelle.
Et du coup, c'est une difficulté supplémentaire ?
Oui, effectivement, c'est une difficulté supplémentaire, parce qu'en fait, plus on se coordonne à un niveau élevé, plus on met des délais entre le moment où l'ordre est donné et où l'exécutant qui est sur le terrain a les mesures de coordination avec la police ou avec les pompiers.
D'où le fait que quand on parle, notamment sur Alpes, un exercice de coordination, pour les auditeurs en tout cas, c'est ça l'objectif, c'est que la coordination, elle doit être au millimètre près pour qu'il y ait une rapidité dans l'action.
Exactement. En fait, plus chacun connaît les procédures des autres, sait se coordonner, plus on est efficace et plus la manœuvre de sauvetage, par exemple, dans le cas de vendredi matin, va être fluide. Et donc, ça, cette fluidité qu'on est en train d'acquérir avec les différents services de police et de secours, il pourra nous être utile potentiellement dans le cadre de la Coupe du Monde de rugby ou des Jeux Olympiques 2024, où on sait, ou en tout cas on pressent, que l'armée de terre sera engagée en appui des forces de sécurité intérieure.
Vous serez appelé, vous en tout cas, à intervenir sur ces événements sportifs, ces grands événements sportifs?
Alors, les premiers hein, qui seront engagés, hein, c'est bien les forces de sécurité intérieure. Nous, à chaque fois, on est en appui, c'est-à-dire qu'en fonction d'un événement, etc., on peut participer pour renforcer les effectifs des forces de sécurité intérieure pour gérer tel ou tel événement. Et donc, c'est vrai que cette phase de vendredi matin, elle avait un peu l'objectif d'améliorer notre coordination en vue d'un éventuel engagement de l'armée de terre dans ces événements qui sont très heureux.
Un escadron du 4e régiment a été déployé, c'était en février, en Roumanie, pour intégrer la force de réaction rapide de l'OTAN. C'était face à l'invasion de la Russie, en Ukraine. Concrètement, sur place, le but était uniquement dissuasif?
Oui, alors en fait, ce qu'on ne savait pas au début du déclenchement de l'alerte, hein, c'est le propre d'être en alerte, c'est de ne pas savoir sur quel type de théâtre on va être engagé face à quel ennemi. Et donc au départ, effectivement, il y avait un peu un doute sur comment allait être employé l'escadron qui est parti en Roumanie. Mmh. Donc, au final, effectivement, le but, c'était un aspect dissuasif face à la Russie pour montrer qu'il fallait pas qu'il rentre sur les territoires de l'OTAN, sinon l'OTAN réagirait de manière virulente. Et donc, voilà, il y avait vraiment la première mission, c'est un aspect dissuasif. Et puis le deuxième aspect, après, ça a été là aussi d'améliorer nos procédures pour travailler avec nos alliés, puisque l'escadron a travaillé avec les Américains, avec les Roumains forcément, mais également avec des Belges, avec des Hollandais, avec des Portugais. Donc forcément, quand on n'a pas l'habitude de travailler ensemble, on n'a pas forcément exactement la même tactique, pas forcément la même procédure, pas forcément les mêmes moyens radio. Donc en fait, là-dessus, l'escadron a vraiment pris un clic en termes de connaissance des alliés.
Oui, alors les derniers soldats français d'opération Barkhane ont quitté le Mali il y a quelques semaines. Pour autant, le 4e régiment de chasseurs de Gap pourrait être projeté à nouveau en Afrique. Alors première question, quand et où? Et deuxième question, c'est un fait assez rare, mais vous aussi vous serez dans cette OPEX, dans cette opération extérieure. Vous aussi vous serez projeté pour la seconde fois de votre commandement.
Oui, effectivement. Donc là, l'orientation, parce que comme vous l'avez dit, l'armée de terre, en tout cas l'opération Barkhane, se réarticule avec le départ du Mali le 15 août dernier. Et donc, les structures sont encore en cours d'adaptation, si je puis dire. Donc, l'orientation pour le moment, c'est un départ fin janvier, début février pour une partie importante du régiment, avec une projection au Tchad, au Niger et en Côte d'Ivoire essentiellement, ainsi que un petit détachement en Bosnie-Herzégovine.
Quand vous dites un effectif important, c'est-à-dire combien de militaires, à peu près?
Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, parce que justement, les structures ne sont pas totalement arrêtées, mais on est sur 300 à 400, donc ce qui fait quasiment entre 40 et 50% du régiment.
Et vous avec?
Et moi avec, effectivement.
Ce qui est assez rare.
Alors, ce qui est rare, en fait, le régiment a la chance d'être souvent projeté avec son état-major. Donc, qui dit état-major, il y a le chef de corps et puis son centre opération. Donc c'est arrivé quand même à de nombreuses reprises, parce que si je reprends sur les dernières années, c'est arrivé en 2016, en 2017, en 2019, en 2021, et donc ce sera à nouveau en 2023. Donc c'est assez fréquent finalement que le chef de corps soit engagé en opération. En revanche, ce qui l'est moins, c'est effectivement d'avoir deux projections dans un temps de commandement qui ne dure que 2 ans.
Merci beaucoup, colonel Philippe de Tannouard, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le chef de corps du 4e régiment de chasseurs de Gap. Merci.